RCF.
La Bible a plusieurs voix. Vous entendrez aujourd'hui les voix de
Marie-Pierre Desfossés,
Jean-Luc Autrette,
Malou Lebars, et c'est Guilhem Thiénot qui nous accompagne à la technique. Dans l'évangile de Luc, nous lisons au chapitre 2 le récit de la nativité. Et dans une précédente émission, nous avions commenté les versets 1 à 7 où on nous avait dit que Marie met au monde son fils premier-né, l'enveloppe de l'ange, le couche dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune de l'humanité. Voilà, c'est ce que nous avions dit. Et nous en étions donc au berger. Alors, on reprendra le commentaire à partir de ce verset 8, mais je vous propose déjà maintenant d'entendre ce passage qui va du verset 8 au verset 20.
Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota, et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : Soyez sans crainte, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un Sauveur qui est le Christ Seigneur, et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse, qui chantait les louanges de Dieu et disait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux : Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu en accord avec ce qui leur avait été annoncé. «
Voilà, donc nous reprenons à partir du verset 8. Des bergers étaient dans cette région, donc dans ces champs, dans les champs. Ils vivaient dans les champs et ils veillaient sur leurs troupeaux. Et ils montaient la garde. Ils veillaient les veilles de la nuit. Alors on avait un petit peu souligné ça, l'importance de souligner que ce sont des personnages de la nuit. Des personnages de la nuit, de la veille. Voilà. Et c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il n'y a que ceux qui sont dans la vraie nuit.
Qui peuvent être éclairés.
Qui peuvent accueillir
la lumière.
La vraie lumière. Et ça, peut-être que nous pouvons l'entendre pour nous aussi aujourd'hui. Il y a quelque chose de berger en nous. Peut-être sans même que nous en rendions trop compte, capables de veiller les veilles de la nuit, de veiller sur quelque chose, sur quelqu'un, sur eux. Et qui sont dans l'attente, donc être dans la nuit, c'est voilà, et veiller, c'est donc être en quête de lumière. Alors c'est très beau là, parce que donc les bergers qui sont un peu les exclus de la société, on a dit que c'était à peine s'ils étaient recensables.
Oui, on a dit voilà. Qu'ils étaient impurs, ils étaient des voilà. Parias au regard
donc,
de...
Mais les bergers, quand même, ont la charge du troupeau. Donc on avait souligné aussi déjà que l'ascendance davidique de Jésus, ça nous rappelait aussi le petit berger qui était David, hein, qu'on avait négligé aussi, et qui était... qu'on ne pensait pas que c'est lui qui pouvait recevoir l'onction royale. Hein, voilà. Et donc ici, voilà, c'est vers eux qu'un ange du Seigneur, verset 9, hein, voilà, qu'un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange, voilà, est-ce que c'est celui qui bat des ailes, là ? Est-ce que c'est...
Non, c'est le porteur de parole, voilà, l'ange.
Voilà.
Alors donc ça, c'est important, parce qu'il y a une parole qui se tient, capable de se tenir en leur présence. Parfois, c'est vrai que c'est des paroles fortes comme ça qui peuvent devenir très, très présentes à nous. C'est une manière de le dire. Voilà. Et la gloire du Seigneur les enveloppa de lumière. Alors, quand on a ce mot-là, parfois, on s'imagine des glorioles de la terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la gloire du Seigneur ?
C'est sa force.
Oui, la gloire, le mot, si on prend la racine peut-être plutôt hébraïque.
Ça a du poids, en quelque sorte.
Oui, c'est ce qui donne du poids, de la consistance. Hein, et voilà, c'est la gloire du Seigneur, les enveloppes de lumière. C'est merveilleux, ça, vous ne trouvez pas ? Moi, je trouve ça quelque chose d'extraordinaire. Ce sont ceux qui sont dans la nuit et qui veillent, qui peuvent être enveloppés de lumière.
Oui, c'est une parole, en fait, qui va les envelopper de lumière.
C'est une parole, mais une parole avec une présence inouïe, hein, qui survient. Et donc, quand on nous dit qu'ils sont effrayés d'une grande frayeur, c'est pas une panique, mais c'est devant le surgissement quand même de l'inouï de Dieu. Hein, on a peut-être ça au tombeau aussi, non, les femmes.
Oui, tout à fait. On a, j'aurais tendance à dire que l'épisode va se renouveler en fait de cette approche de la parole au travers de l'ange, et ça va créer le même phénomène en quelque sorte.
Et là aussi, c'est pareil. Ici, verset 10, l'ange leur dit :« Ne craignez pas. » À chaque fois, c'est...
Oui, comme il dira aux femmes, d'ailleurs, au tombeau.
Voici que je vous annonce, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Et là, peut-être que si on dit « je vous annonce une bonne nouvelle », c'est comme s'il y avait un message quoi, qu'il fallait qu'ils entendent. Or, on pourrait presque traduire, c'est un seul verbe qui est utilisé là, on pourrait presque dire « je vous bonne nouvellise ».
Oui, c'est ça. Il y a de l'ordre de la contamination de cette bonne nouvelle, en fait, parmi les bergers. Les bergers vont être...
Ils sont transformés en bonne nouvelle.
Voilà, ouais. Ils sont transfigurés par cette parole, en quelque sorte, eux-mêmes. Ils sont... mais cette parole qui provoque la joie, elle n'est pas que pour eux. Donc, on apprend, c'est une grande joie pour tout le peuple.
Il y a la notion de peuple qui apparaît, oui.
Et ce peuple apparaît avec l'idée de la joie. C'est pas rien, quand même. Hein. Donc, c'est un événement saisissant dans la vie, l'irruption du divin, de la présence divine, par sa parole, et qui est pas simplement pour soi tout seul, pour un tout seul, mais pour le peuple. C'est que pour vous, aujourd'hui, donc, il vous est né un sauveur dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour vous, est né un sauveur qui est le Christ Seigneur.
Oui, c'est aujourd'hui.
Voilà.
Oui, c'est aujourd'hui et c'est aujourd'hui pour nous aussi.
Puis on a tous les titres théologiques qui sont donnés à Jésus.
Oui, voilà, donc il est un sauveur. Jésus, le mot Jésus veut dire sauveur déjà, hein, qui est le Christ, c'est celui qui a reçu l'onction royale. Mm-hmm. En fait, c'est la manière de dire que c'est le Messie attendu. Mm-hmm. Et le Seigneur, c'est lui qui est. Qui a cette. On pourrait dire qui est reconnu comme étant l'envoyé de Dieu.
L'envoyé de Dieu, oui.
Dans la ville de David. Et le signe, alors. Mais le signe, on pourrait dire. En soi, c'est assez dérisoire quand même, non ? Un signe.
Ah, complètement dérisoire.
Un signe, c'est quand même toujours à interpréter aussi.
Oui, voilà. Mais donc, nous, nous avons essayé de l'interpréter. Hein,
dans la précédente émission.
Oui, ouais, voilà, en disant peut-être que ce fait d'être enveloppé de linge, de bandelettes, ça dit déjà qu'il entre dans cette condition de mortel qui est la condition commune à tous les humains, et puis que Marie l'a mis déjà dans la mangeoire, le lieu où on donne à manger aux animaux. Mmh. Et donc, nous sommes dans la ville de Bethléem,
la maison du pain, oui.
Celui qui dira « Je suis le pain de la vie », il est là déjà offert aux plus humbles d'abord des humains donc, qui sont là, les bergers. Et le signe, il est pour eux. Un signe tout modeste, ça ne fait pas beaucoup de bruit hein, dans l'univers. Voilà. Un bébé, tout ce qui est de plus petit, de plus fragile, fragile, de plus discret. Voilà. Ça ne fait pas la une des journaux. Hein.
Et Luc nous dit, vous trouverez.
Oui, voilà, c'est très très important ça. Pourquoi vous soulignez ça ?
Je dis ça comme ça, mais ça suppose quand même qu'il faut qu'il y ait un déplacement,
oui.
Presque une quête,
oui.
pour trouver ce signe.
Voilà, mais la promesse est donnée, vous allez trouver, vous trouverez. Hein. Donc, c'est vrai que le mot « trouver » est un terme que l'évangéliste Luc aime bien penser à la brebis perdue qui est trouvée, à la perle qui est trouvée. Voilà, donc ce verbe trouver, il a quelque chose de fort et il dit bien, oui, que c'est peut-être leur quête profonde qui se trouve peut-être récompensée comme ça aussi. Hein, voilà. Verset 13. Et soudain, il arriva avec l'ange. Je traduis encore, il arriva, parce que même si ce n'est pas toujours traduit comme ça, hein, donc on vous dit dans la top, tout à coup, il eut avec l'ange l'armée céleste. Mais à chaque fois, on avait souligné que c'était la même tournure hein, qui ponctuait le récit.
Tout à fait.
Il arriva, donc ça veut dire que c'est dans l'ordinaire de la vie des humains, et il arrive quelque chose, il arrive un événement. Alors ici, il arriva avec l'ange, multitude d'armées célestes. Le mot armée, il peut peut-être nous choquer, mais enfin, ça veut dire qu'il y a...
Il y a de la force.
Il y a de la force, il y a un déploiement multiple. Louant Dieu et disant gloire à Dieu au plus haut des cieux, on est habitué à cette expression pour traduire gloire à Dieu dans les hauteurs, dans les très hauts, et sur la terre, paix dont les humains, alors c'est traduit souvent par paix pour les hommes, c'est bien aimé, mais on pourrait dire paix dont les humains de bienveillance. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez là, qu'est-ce que ça vous dit tout ça?
On a l'impression ici que la parole, elle est en train d'éclater de partout dans ce monde habité,
oui.
Par cette force-là.
Oui, mais en même temps, quand on nous dit, voilà, donc ça c'est pour exprimer l'idée que c'est comme si ça résonnait de partout, hein, voilà. Mais on dit gloire à Dieu dans les hauteurs, et sur la terre, paix dans les humains de bienveillance.
Donc il y a une relation entre ce monde d'en haut et puis ben, notre monde à nous qui tourne. Et justement, ce mot paix, c'est une relation de fraternité profonde entre. Et justement, ben, je trouve beau les humains de bienveillance. Je trouve que ça dit justement cette fraternité profonde.
Vous préférez ça aux humains, c'est bien aimé. Vous préférez les humains de bienveillance. Oui, moi, ça me plaît bien aussi parce que j'aime bien ce mot-là. On pourrait dire que la bienveillance, c'est quand même ce qu'on pourrait se souhaiter aussi, pas simplement dans le temps de Noël d'ailleurs, mais...
Que ça soit contagieux.
Que ça soit contagieux. Alors voilà, donc les enjeux, déjà on pouvait dire qu'ils faisaient le lien entre le ciel et la terre, hein, donc ça voulait dire que ça parlait entre là-haut, entre Dieu et les humains, ça parle désormais. Mais la gloire de Dieu, ce rayonnement du divin, ce poids du divin, ça ne peut se voir que dans les humains de bienveillance. Désormais, c'est là qu'il y aura des signes que Dieu est présent. C'est pas rien quand même.
Non, c'est pas rien. Dans celui qui ira visiter le prisonnier, dans celui qui ira visiter le malade... Puisqu'on on va retrouver ça après dans les paroles du Christ, en fait.
Oui, mais c'est pour dire que donc cette paix-là, ce qui n'est pas une paix simplement parce qu'on va faire une trêve dans les guerres, hein, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est comme si c'était un nouveau style de vie, ou plutôt un style de vie neuf, hein, qui pouvait advenir dans les humains, dans chaque humain, quoi, que la bienveillance. Voilà, les anges se sont approchés, la parole divine s'est approchée, et désormais il y a une communauté de vie possible pour les hommes dans la paix. C'est pas rien quand même, hein. C'est pas rien. La manifestation que Dieu s'est incarné, c'est que les humains soient capables de bienveillance, soient habités par la bienveillance, parce qu'ils ont foi en la parole entendue. C'est ça qui est la paix au cœur des humains. Voilà. Donc c'est parce que quelqu'un est apparu par les humains, à une place particulière, celui-là, ce bébé. Hein, voilà. Eh bien, c'est pour ça que désormais, il est possible qu'il y ait une vie de bienveillance entre les humains. Alors, je vous propose une petite interruption musicale, parce que nous avons encore quelques versets à commenter. Voilà, cette belle musique nous met vraiment dans l'ambiance de Noël, de cette nativité qui est comme l'expression de la paix dans les humains, l'expression même de la présence du divin, quoi, du divin et de la gloire de Dieu. Hein. Donc nous reprenons verset 15 du chapitre 2 de Luc. Alors là, il y avait encore « il arriva », mot à mot, mais ce n'est pas toujours traduit dans toutes les versions. « Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. » Donc là, justement, les bergers ont été enveloppés de lumière, on a vu ça, et dans leur nuit s'est éclairée, et ils ont entendu cette parole de l'ange qui les habite désormais, ils incarnent cette parole, et ils se dirent entre eux, voilà, allons jusqu'à Bethléem, et voyons la parole dite. Alors, donc, celle qui est arrivée, je traduis un peu littéralement là, que le Seigneur nous a fait connaître. C'est peut-être étonnant cette expression, non ? Voyons la parole dite. Ça peut paraître étrange. Il est beaucoup question de parole dans ce récit.
Oui. Oui, oui.
Voyons ce qui a été dit.
Oui.
Mais quelque part, ce qui a été dit est à voir aussi. C'est de l'ordre du visible. Oui. Ça devient de l'ordre du visible.
Oui, c'est ça, mais donc la parole, elle nécessite d'être entendue d'abord. Hein.
Oui.
C'est d'entendre la parole qui
permet de voir.
Hein. C'est d'entendre la parole. Que... Donc, voyons la parole dite, c'est-à-dire qu'il y a comme une manifestation de ce que la parole a produit en eux, la parole, ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. J'aime bien ce petit échange-là, ils se dirent les uns les autres. Hein. C'est comme
il y a une connivence qui se...
Ouais, quelque chose qui se répond entre eux d'abord.
Hein, parce en fait, elle a été entendue, vraiment entendue par tous, parce qu'on aurait pu dire que peut-être que tous n'auraient pas été touchés. En fait, ils ont tous été touchés par la parole.
Oui, de toute façon, le texte ici, il n'imagine pas qu'il y aurait certains bergers
qui ne soient pas
d'un certain endroit. La figure, c'est ce qu'on appelle la figure des bergers, ici, elle déborde largement le cadre d'un petit groupe social, etc. Les bergers, la figure des bergers, les bergers, et il y en a, on peut espérer, en chacun de nous,
oui,
capable d'entendre
la parole. Oui, c'est à espérer, parce qu'on voit que cette parole donne de la relation entre tous ces bergers-là,
oui,
en
voilà.
fait.
Et
c'est
donc,
celle qui fait se déplacer aussi,
oui,
parce que du coup, il y a un mouvement.
Ils
quittent là le lieu de la veille pour aller voir la parole.
Mmh. Et voilà.
Ils se hâtent même.
Donc ça, c'est la hâte, c'est toujours l'expression d'un désir très fort hein, qui se manifeste. On se rappelle aussi que Marie allait en hâte voir sa parente Élisabeth. Hein, donc
oui, ça marque l'intensité avec laquelle ils ont été touchés, en fait.
Alors, ils trouvèrent, hein, on dit verset 16, pareil, ce verbe « trouver », ils trouvèrent Marie et Joseph. Voilà. C'est comme si c'était le trésor désormais pour eux. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le bébé couché dans la mangeoire. Alors, ce qu'ils découvrent, c'est celui-là qui est au lieu même où il se fait nourriture. C'est ça qu'ils trouvent. Verset 17, ayant vu, ils firent connaître au sujet de la parole, je traduis un peu plus littéralement, qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Hein, donc, après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendaient, verset 18, furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. On pourrait même traduire, furent dans l'émerveillement. Ce n'est pas tellement seulement de l'étonnement.
Oui.
Je préfère presque l'émerveillement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, parce que c'est presque invraisemblable que des bergers puissent être... voilà. Oui.
Ils sont devenus porteurs de parole.
Oui, ils sont devenus des annonceurs, en quelque sorte,
de
bonnes nouvelles.
Ce sont les plus petits parmi les humains, les plus humbles, voilà, mais ceux qui sont dans la veille, qui sont enveloppés de lumière, qui deviennent l'incarnation même de la parole. Hein, voilà. Et de ce fait-là, eh ben, ça provoque de l'étonnement, de l'émerveillement. On avait dit, c'est contagieux.
Oui.
Ils deviennent contagieux de cet émerveillement, de l'événement de la naissance hein, de Jésus. Alors, verset 19, quant à Marie, Alors, quant à Marie, donc, elle gardait, je regarde comment c'est traduit dans la tome, elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Alors, parfois, c'est traduit en cherchant le
En cherchant le
sens,
sens,
voilà, et
oui.
tout ça. Alors, en tout cas, Marie, elle a une fonction qui n'est pas du tout celle d'être l'annonceur ou dans l'annonce.
Non,
Elle
elle est du côté de la garde.
est du côté de la garde de la parole. Et c'est vrai que ce mot-là, la garde, va revenir très souvent. Par exemple, dans l'évangile de Saint Jean, vous garderez ma parole. Enfin, on va dire souvent, vous garderez mes commandements. Mais les commandements, ce n'est pas des ordres. Vous garderez les dispositions à être. Voilà. Et elle garde ces paroles dites. Marie, Marie, c'est celle qui est, hein, on avait dit, fécondée entièrement par la
Par la
parole.
parole, oui.
Et elle les rassemble. C'est tout son être qui devient parole. Hein, donc, tout son cœur, en tout cas, les rassemblant dans son cœur. Et le verset 20, puis les bergers s'en retournèrent, glorifiant, louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon qu'il leur fut dit, selon qu'il leur fut parlé. Voilà. Donc, les bergers s'en vont, ils chantent la gloire de Dieu, les louanges. Ils sont devenus les anges, qu'est-ce que vous en pensez?
D'une certaine manière, puisqu'ils sont porteurs de bonnes nouvelles.
Oui, mais parce que c'était les anges avant qui chantaient la
La
gloire de
gloire de
Dieu.
Dieu,
Et
eux,
donc,
c'est à leur tour, ils ne peuvent que faire ça. Ils ne peuvent
eux,
que
ce
chanter
sont,
la gloire de Dieu.
eux, ce sont les nouveaux anges, désormais, qui sont là.
Que ce sont eux les porteurs de la bonne nouvelle,
Oui.
enfin de bonnes nouvelles.
Oui.
Alors, donc, ce sont eux qui sont transformés et c'est contagieux. Hein. Alors, bah, peut-être qu'on pourrait se dire qu'il y a du berger en chacun de nous, en chacun de ceux qui viennent, peut-être, qui viennent que ce jour-là, dans les églises. Il y a du berger dans tous ceux qui ont le soin, le souci des autres, qui veillent sur d'autres, hein, et peut-être même qui veillent la nuit, qui sont dans la nuit. Eh bien, c'est cette part de nous qui est illuminée, c'est cette part de nous qui est en mesure d'accueillir l'inouï de la présence divine, même peut-être sans le savoir. Et je nous souhaite, voilà, d'être illuminés en ce temps de Noël aussi. Alors, on va terminer, si vous voulez bien, par la lecture de deux poèmes sur Noël. Alors, je vais d'abord donner. Nous allons d'abord donner la parole à Colette Nismazur. Et voilà, c'est peut-être un peu difficile à entendre, mais je lis. Nous sommes là, penchés sur ce berceau, ce nez nouveau, cependant hors d'âge, enraciné dans un humus séculaire. Bourgeons d'une interminable généalogie. Nous sommes là, remués au plus secret, rendus à la vie, la vraie vie qui donne et pardonne, qui se développe et se partage, contagieuse. Nous sommes en grâce, en émerveillement, à laisser fleurir le désir et l'espérance, l'insensé, l'irrépressible. La prière monte de l'âme au cœur éperdu. Un vœu de bonté, sans réserve ni condition. Oui, il y a là ce nez nouveau, et nous sommes en grâce, en émerveillement, et l'espérance grandit en nous. Et c'est un vœu de bonté qui monte de nos cœurs. Alors, je propose de terminer maintenant par le poème de Francine Carillo.
Voici que se lève sur la paille du monde une lumière première et dernière, comme une coulée d'étoiles, un voile de douceur dans la nuit des cœurs. Pour annoncer un commencement, il fallait bien un enfant, un visage de tout petit qui porte l'inouï. Dieu s'entredit dans notre histoire. Il est à nos côtés, pèlerin d'humanité. Ceux qui goûtent cette présence sont en chemin vers leur naissance. Ils abritent en eux une racine de lumière incomparable, à jamais inaltérable.
Eh bien voilà, si nous avons goûté un peu à travers la parole cette présence, du petit de Bethléem, eh bien, nous sommes aussi en chemin vers notre propre naissance. Merci d'avoir été avec nous sur RCF.